Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Continuons dans notre exploration de cette partie du catéchisme sur la toute-puissance de Dieu. Nous avons terminé notre dernier échange en mettant l'une en face de l'autre ces affirmations, donc Dieu tout-puissant, omnipotens, et Dieu qui tient tout, qui
omnitenens.
Omnitenens. Et tu me disais, après, c'était hors antenne, que le omnitenens, ça nous fait penser aussi au lieu tenens.
Exactement. Locum tenens, celui qui tient lieu, le lieu tenant. Dieu, dans sa création, dans son acte créateur, a donné à Adam un rôle de lieutenance, c'est-à-dire qui tient lieu pour l'achèvement, pour la perfection de sa création. Il a mis l'homme dans le Gan Eden, dans le jardin des origines, pour qu'il achève en quelque sorte la beauté de sa création. Car tout est fait pour la gloire de Dieu, et l'homme va être à l'image et ressemblance de Dieu créé, au lieu et place donc d'un certain agir divin, puisque lieu tenant, celui qui tient lieu et qui agit au nom de, hein, et d'une certaine manière, il y a une grande responsabilité qui est confiée à l'homme, puisqu'il est le lieu tenant de Dieu. Il doit agir conformément à la volonté de Dieu et dans le sens d'un achèvement, d'une perfection de tout ce qui est et de tout ce qui est donné dans la création.
Je trouve intéressant de rappeler cela, même si bon, aujourd'hui nous allons aller sur la deuxième expression, le deuxième adjectif qui caractérise la toute-puissance de Dieu, donc tel que le catéchisme de l'Église catholique nous le montre. Cette toute-puissance de Dieu est aimante. Alors, on va retrouver le Dieu Père, mais spontanément, je me dis le Fils. Qui est Dieu, nous montre cet amour lui-même qui va dire, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Il entre dans une relation alors qui va s'exprimer de manière, en allant au bout des choses sur la croix. Le Dieu aimant, la toute-puissance de Dieu est aimante. Et je disais en commençant que certains prêtres parfois, ou certains chrétiens, ont tellement peur de choquer en disant Dieu tout-puissant qu'il dit Dieu dont l'amour est tout-puissant, qui est, on l'a dit, c'est vrai, il faut prendre l'ensemble, mais Dieu dont l'amour est tout-puissant est important, et c'est bien une des caractéristiques que le catéchisme nous donne.
Oui, effectivement, et il cite cet admirable passage de la Somme de théologie de saint Thomas qui dit en Dieu la puissance et l'essence, la volonté et l'intelligence, la sagesse et la justice sont une seule et même chose, de sorte que rien ne peut être dans la puissance divine qui ne puisse être dans la juste volonté de Dieu et dans sa sage intelligence. C'est très bien dit pour montrer que tous ces attributs divins fonctionnent ensemble. On ne pourrait pas prendre un processus, imaginez un ordinateur avec plein de process. Eh bien, vous ne pouvez pas en prendre un en Dieu sans que tous les autres soient convoqués. Et la volonté, saint Thomas dit très bien, quel est le premier acte de la volonté pour tout homme, et encore mieux pour Dieu? Le premier acte de la volonté, c'est d'aimer. La volonté fait tendre vers un bien. Et c'est l'amour qui permet cette orientation vers le bien. Dieu s'aime lui-même parce qu'il est le bien suprême, et il nous apprend à l'aimer comme bien suprême pour nous orienter vers notre bien. Et c'est l'amour. L'amour, c'est un mouvement vers le bien, c'est un mouvement vers ce qui est le bien désiré, parce que Dieu a mis dans notre cœur, créé à l'image et ressemblance de lui, un amour vers le bien, un désir vers le bien, un désir de réalisation vers le bien. Et nous comprenons bien à ce moment-là que cette toute-puissance divine n'est nullement arbitraire, comme dit le catéchisme de l'Église catholique. Dieu n'est pas un potentat qui agirait comme ça par une espèce de faconde ou par tout à coup des potentia absoluta, voulant ceci plutôt que cela. Et jamais Dieu ne dira, par exemple, que le rouge ce serait du blanc ou que le blanc ce serait un jour du rouge, si vous voulez. Et il faut écarter ce genre d'impression que Dieu ne serait pas tout autant sage, bon, bienveillant que tout-puissant. Les attributs divins, une fois de plus, cheminent ensemble, et Dieu est amour, c'est la grande révélation du Nouveau Testament, c'est déjà présent dans la première alliance, mais le grand témoin de l'amour, c'est Saint Jean, quand non seulement il nous apprend que notre Seigneur nous a dit qu'il ne nous appelait plus serviteurs mais amis, mais en même temps c'est lui qui dit dans la première lettre, Dieu est amour. Deus caritas est, comme répétera le pape Benoît XVI dans sa première encyclique, Dieu est amour, 1 Jean 4,8, 1 Jean 4,16, Dieu est caritas, Dieu est amour, et il s'est révélé à l'intime de lui-même en nous révélant qu'il y a un mouvement d'amour interne à Dieu transcendant. C'est le Père qui engendre par amour le Fils, et c'est le Père et le Fils qui spirent par amour le Saint-Esprit. Donc c'est un amour infini, un amour perpétuel, et d'une certaine manière, c'est comme si le projet d'amour bienveillant de Dieu était d'associer sa petite créature, l'homme, à ce mouvement d'amour, nous faire entrer dans ce mouvement, dans cette péricorèse, dans cette circumincession, ce mouvement éternel dans lequel nous sommes appelés un jour à être unis et à goûter de l'amour. Cette toute-puissance donc a un sens pour nous, elle est une orientation à aimer de plus en plus sur le modèle de Dieu qui aime et de Jésus, notre Seigneur, bien sûr, qui nous a appris à aimer aussi humainement, parce que aimer divinement, ça nous dépasse complètement, il faut bien le dire, hein. Dieu est le Très-Haut, le Transcendant, et sa manière d'aimer nous dépasse infiniment, mais en Jésus, cela devient accessible, il est médiateur entre Dieu et les hommes, sa manière d'avoir eu un cœur humain qui battait nous a appris à aimer et à nous tourner vers le Père, à dire avec lui notre Père, Abba Père, comme disait Jésus, et à réciter ensemble le Notre Père.
Tu disais donc que l'amour est un mouvement vers le bien, et que dire que la toute-puissance de Dieu est aimante, c'est d'abord dire que Dieu recherche le bien, en plus du fait que ce qui est le mouvement de Dieu, il veut que ce soit le mouvement de sa créature. Et évidemment, il faut sortir l'idée que l'amour serait un sentiment. Des fois, on a une vision très, très fade de l'amour, et puis finalement, qui est marquée par ses propres, l'élan de ses passions ou ses intérêts personnels, d'une certaine façon. L'amour dont il est question, pour reconnaître le bien, il faut avoir réussi à s'être abandonné, à s'être détaché de l'idée que l'on se fait d'un amour-sentiment. Ça flatte mes sentiments à un moment.
Oui, alors les sentiments font partie aussi de notre état de créature. Ils ne sont pas mauvais en soi, mais ils ne suffisent pas. Ils ajoutent à la bonté de l'acte. C'est ça qu'il faut voir. Ils ajoutent seulement. C'est un, dans le fond, un coefficient qui va pour rendre plus accessible, plus facile ce mouvement d'amour qui est en nous vers le bien. Mais en soi, c'est vrai que l'on peut aimer d'une manière raisonnée sans nécessairement que tous les sentiments soient convoqués. On peut très bien poser un bel acte d'amour dans une certaine sécheresse extérieure, mais cet acte d'amour est agréable à Dieu et est bénéfique pour le prochain, même si les sentiments ne l'accompagnent pas sur le moment. C'est mieux que les sentiments l'accompagnent, cela donne à la bonté un mouvement, je dirais, qui enrichit ce que nous essayons de faire, ce que nous posons dans le réel, mais c'est vrai que ça n'est pas du tout un absolu, c'est un peu accidentel, pour employer un langage philosophique, par rapport à ce mouvement vers la fin, vers le bien qui est notre fin.
Oui, et je trouve important de se dire, là encore, quand on est gêné avec ce terme de toute puissance, nous avons utilisé le mot « mouvement » plusieurs fois. Dans cette toute puissance de Dieu, c'est vraiment un élan. Je pense à cette magnifique phrase chez saint Paul, « Ne brisez pas l'élan de votre générosité ». C'est finalement le Dieu Tout-Puissant. Nous disions au tout début que c'est Dieu qui peut dire « ça suffit », c'est aussi Dieu qui peut dire « je vais aller jusque-là » et encore plus loin.
Oui, certainement. Dieu, à cause du fait qu'il a laissé l'homme libre, nous touchons le dernier point qui est l'impuissance de Dieu, cette mystérieuse et apparente impuissance de Dieu, c'est que Dieu a voulu nous accompagner jusque dans notre liberté. Et à cause de cela, il est obligé parfois, d'une certaine manière, de cet amour le conduit à ce qui, à nos yeux, serait des impasses, hein, comme la croix. La croix semble un raté. La création aussi, quand avoir laissé l'homme la possibilité de pécher, ça semble être un raté. Mais en fait, non. Dieu accepte cette liberté de l'homme et, parce qu'il est tout-puissant, peut toujours rebondir vers le bien. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, dira saint Paul dans ce magnifique passage de l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Et c'est cela qui doit sans cesse éveiller notre contemplation quand il y a des choses qui nous perturbent, quand nous voyons des choses incompréhensibles à nos yeux, des injustices, des souffrances, de la douleur, du mal physique, du mal moral, le mal ontologique, même le diable. Sur les gouttières des cathédrales, le diable joue un rôle parce qu'il est représenté et il a le rôle de la gargouille. C'est amusant que nos anciens aient voulu donner dans ce microcosme qu'est la cathédrale ou la basilique l'effigie de même ces démons qui en font partie, et ils sont là, ils aident à la toute-puissance, à la réalisation du dessein d'amour bienveillant de Dieu.